En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Il y a comme un parfum d'élégance dans le studio d'En sol majeur, du monsieur sapé tout en noir, du dandy qui passe sa vie à cultiver son jardin, la distance tendance second degré et le bon goût. Du commissaire d'exposition, critique d'art, essayiste, écrivain qui vous tend une carte de visite où c'est écrit « The man with no job ». Simon Djami pense le monde en le parcourant. Né quelque part en Suisse, son lien ombilical se situe quelque part au Cameroun. Mais le placenta, l'ADN du bon goût n'ayant que faire des frontières, Simon Djami enjambe les clichés comme on enjambe le cadavre de la pensée unique. Y a qu'à voir, y a qu'à lire. Sa revue noire sur l'art africain contemporain, la Biennale de Dak Art, dont il était le directeur artistique l'an dernier, et puis Londres, Tokyo, Venise, Johannesburg, Francfort n'ont rien oublié de son goût artistique. Et d'ailleurs, le voilà à Paris, commissaire de l'exposition Métropolis Afrique Capitale à la Grande Halle de la Villette. Je ne dirai qu'un mot, merci d'être là pour En sol majeur, Simon Djami.
Merci à vous de me recevoir.
Mais alors, première question, l'art, ça intéresse qui aujourd'hui ?
Ça intéresse tous les gens qui ont quelque chose entre les deux oreilles. Ce qui se passe, c'est que les spécialistes de la spécialité ont tendance à faire croire aux gens, les braves gens, que l'art ne saurait les intéresser, qu'il faut une initiation particulière, qu'il faut des doctorats, des spécialisations. Or que l'art est la chose la plus banale et la plus exceptionnelle du monde. Et c'est ça qui en fait toute sa force.
Alors on va voir ça, en sol majeur en tout cas va s'intéresser à celui qui s'y intéresse. Et puisque vous êtes un homme de goût, première question.
Vad skulle ni vilja äta med era händer?
Qu'est-ce que vous adorez manger avec les doigts?
Ce que j'aime manger avec les doigts, c'est ce qui se mange avec du pain. Donc le foie gras, les tartines, beurre, confiture, des sandwichs. Je crois que c'est à peu près la seule chose, sans doute des madeleines, sans être proustien. Mmh.
Lequel des cinq sens a été le plus encouragé, le plus stimulé quand vous étiez enfant ?
Il me semble que ce serait l'ouïe. Parce que nous avions des séances comme ça autour de la radio le dimanche, où nous écoutions des concerts. Je pense que le regard n'était pas très loin.
Alors il y a le palais, et puis il y a la langue, il y a celle qui dit « j'aime, j'aime pas ». Au rayon de vos premières amours esthétiques, vous me l'avez confié, on trouve Chopin, Boris Vian et Picasso.
C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas ? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis. C'est personnel, n'est-ce pas ? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même.
Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans. En lisant une pièce de Robert de Flair et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure, c'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique. Et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.
Simon Djami, cette devise, je m'applique à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Est-ce que c'est devenu votre devise à vous ?
Je pense que cela a toujours été. Je pense que c'est la devise de mon père et de ma mère.
Qu'est-ce qui vous intéresse chez Vian, sérieusement ?
Ce qui m'intéresse, c'est l'anticonformisme, c'est cette interrogation sur les mots également. Il jouait beaucoup sur les mots. Et surtout, c'est un parcours assez intéressant. Voilà un garçon qui a été élevé dans la rationalité, ingénieur à centrale, etc. Enfin, tout comme il faut et qui se décide de se lancer dans le jazz, qui joue de la trompinette, qui fera avec les azous, avec la pataphysique. Je pense que c'est le goût de se démarquer, c'est le goût de ne pas entrer dans une quelconque mode. Je crois que c'est une certaine solitude, mais pas la solitude du coureur de fond, mais simplement cette espèce d'unicité de soi où on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, pas pour plaire à quiconque.
Alors vous avez reconnu la petite musique en filigrane comme ça d'un certain Chopin.
Frédéric, oui.
Pourquoi Frédéric ?
Pourquoi Frédéric ? Parce que c'est un romantique, parce que j'ai beaucoup aimé le piano seul et j'aime beaucoup la vie des gens qui composent les musiques que j'écoute. Et Chopin, souffreteux, mort jeune, bien plus vieux que Mozart ou que Schubert, mais cette vie comme ça entre la maladie et la folie de la création avec Georges Sand en filigrane, j'aime bien quand les gens font des choses qui traduisent qu'ils sont. Et j'aime bien ces nocturnes, ils me vont à l'âme.
Picasso, que vous surnommez ?
Le monstre, l'ogre, il a tout compris avant tout le monde, il a tout absorbé, il a été d'une liberté. Voilà, c'est ce type qui est dans le déplacement total, mais qui n'est jamais hors de chez lui. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, que le cubisme vient de sa découverte du choc, la visite du musée de l'homme, le cubisme est certes en partie la statuaire nègre, mais c'est aussi une certaine statuaire ibérique. C'est-à-dire que Picasso a toujours été espagnol. Et il montre qu'on peut être tout en étant multiple. Je veux dire, il n'a jamais été un nationaliste. Quand il a peint Guernica, auquel il fait référence, c'était certes un village espagnol, mais Guernica dépassait l'Espagne et dépassait le village.
Donc de nombreux chocs esthétiques, en tout cas pour vous, Simon Djami, né à Lausanne en 1961, je crois. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez gamin ou adolescent ?
C'est bien de me vieillir d'une année, mais à ce stage, ça ne...
Coquet jusqu'au bout de l'écharpe.
Non, non, précis jusqu'au bout. Une coquetterie. Oh, gamin, je rêvais d'être d'abord pilote de course, en Formule 1, ensuite pilote d'avion, et ensuite écrivain.
Et ensuite Saint-Exupéry.
Saint-Exupéry, jamais.
Moralité, en tout cas aujourd'hui sur votre carte de visite, est-ce que c'est vrai qu'il y a marqué cette fameuse phrase « The man with no job », l'homme sans boulot ?
Non, non, ce qui a marqué exactement, c'est « The man without a job ». Et j'en ai une autre qui dit « The man without a number ».
Mais donc l'homme sans téléphone et l'homme sans travail.
Absolument, mais parce que je ne considère pas, je n'ai jamais considéré que ce que je faisais comme un travail. Voilà, je n'ai pas de boulot et je fais des choses que j'ai envie de faire.
C'est comme... Cabinet de curiosité.
Merci, alors attendez, je vérifie puisque vous avez la gentillesse effectivement de me confier votre carte. SN, the man with a pen. Ah, vous avez quand même un stylo si vous n'avez pas de job. Alors Simon Djami, c'est un de ces passionnés qui évidemment bosse 24 heures sur 24 quand il s'agit de monter une expo comme celle qu'on peut voir en ce moment à la Grande Halle de la Villette à Paris, Afrique en capitale, qui rassemble photographies, vidéos, installations, peinture d'une cinquantaine d'artistes du continent africain et de la diaspora. Ils sont tous réunis autour du concept de la ville. Alors, une première petite remarque, c'est le mot « Afrique » qui s'écrit avec un « S ».
Oui, parce que là encore, pour les spécialistes de la spécialité, je voulais préciser que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent, et qu'il y a des Afriques et pas une Afrique, et qu'être africain n'est pas une identité nationale. Donc je tenais à surligner cela.
Fabriquer une ville, pourquoi ça vous est venu alors ? Pourquoi cette idée vous est venue ?
Elle m'est venue parce que l'exposition allait se dérouler, s'ouvrir en plein pendant les élections présidentielles. Quand j'allais la préparer, voir un peu le quartier, je me suis aperçu que le parc de la Villette était en fait la seule représentation parisienne objective. Parce que quand je me balade dans le Marais, ou dans le 16e, ou dans le 13e, ou à la Goutte d'Or, je n'ai pas une représentation objective de Paris. J'ai des poches comme ça. La Goutte d'Or, c'est l'Afrique, certains quartiers du 13e. Même les panneaux sont en chinois. Le 16e, voilà, c'est ceux qui ont mis de l'argent à gauche ou les Français de vieille souche, comme on dirait. Et à la Villette, j'y voyais des braves femmes à 8h du matin faire leur tai chi. Elles étaient de toute évidence asiatiques. J'y voyais des gens faire leur barbecue. Je voyais des gamins danser, faire leur hip-hop. Je voyais des femmes voilées, mais qui faisaient du patin roulette. Bref, je voyais quelque chose et je me disais, mais c'est en fait la première fois que je vois Paris dans un coup d'œil, où je peux embrasser Paris. Et je me suis dit, tiens, je voudrais bien mettre ça à l'intérieur et faire en sorte que tous ces gens qui sont à l'extérieur passe la porte et voit quelque chose dans quoi ils peuvent peut-être se retrouver.
Alors l'une des œuvres emblématiques de cette démarche ignorante du marcheur dans sa propre ville, peut-être qu'on la doit à Labyrinthe de l'Égyptien Youssef Limoud qui a été placé au centre de votre exposition. Ça ressemble à quoi Labyrinthe ?
Ce sont des pans de murs qui sont assemblés les uns par-dessus les autres. C'est une hauteur de 6 mètres, un peu plus, et une surface au sol d'une trentaine de mètres carrés, 40 peut-être. Et c'est un endroit dans lequel on peut entrer. Et évidemment, on peut y entrer, mais il faut le mériter. Il y a des ouvertures pour lesquelles il faut se pencher. Il y a des ouvertures impossibles qui ne sont pas assez grandes. Et puis au bout, on sort, on ne sait où. Et donc je tenais à voir cette pièce là au centre, au niveau de l'agora, pour que les gens, probablement inconsciemment, certains comme vous consciemment, se rendent compte que finalement nous sommes dans une métaphorisation de l'ensemble de l'exposition. Nous avons comme ça, en format réduit, tout ce que j'invite les gens à faire. C'est-à-dire, il y a un moment où on ne peut pas passer, donc on est obligé de rebrousser chemin, et on ne ressort jamais en ligne droite.
Et puis ce qui est intéressant dans cette installation, c'est qu'elle est signée par un plasticien égyptien, mais qu'elle raconte, qu'elle dit quelque chose d'Alep, une ville syrienne.
Oui, parce que là encore, ceux qui veulent réduire l'Afrique à son africanitude devraient savoir que dès lors qu'on est un être humain, on pense le monde. Et les artistes qui sont dans cette exposition pensent le monde et sont affectés aussi bien par ce qui se passe en France que par ce qui se passe dans le Moyen-Orient ou en Asie.
Il y a un artiste que vous citez, Simon Djami, mais vous n'êtes pas forcément fan, hein, parce que je crois que le concept d'être fan, c'est pas votre truc. C'est le plasticien camerounais Pascal Martin Taillou, qui est installé en Belgique aux dernières nouvelles, et qu'on a reçu en sol majeur. C'est un artiste qui a l'art de détourner les objets.
J'essaie de me servir de l'Afrique qui pourrait être folklorique pour lui donner une autre formule du folklore, on va dire contemporain. Ma façon à moi de peut-être écrire une autre façon de me regarder à travers le quotidien, les objets usuels, et peut-être par ma façon d'utiliser ces objets, permettre un autre regard sur ces objets. Et ces regards qu'on porte, ces objets, c'est le soi qui le porte dans notre regard sur soi aussi. Et utiliser un tambour, un djembé, on dira, ouais, tout le monde est au courant, le djembé. Sauf que moi, je prendrais peut-être le djembé comme cet objet, je dirais, abdien, que je mets parfois en relation avec un pied en cristal. Oui. Et donc je crée ce que je pourrais appeler un avatar, un génie, ou un troubadour qui est en relation directe avec une histoire aussi humaine, je veux dire, universelle. Ça dit, bon, les accompagnateurs, ceux qui font le bruit pour ouvrir le chemin. La rencontre de ces outils-là, extrêmes en fait, dans le choix, fait aussi qu'on se rend compte que nous sommes tous appelés à contribuer à la fabrication du même chapelet.
Et oui, un artiste pas réveillé, ça parle un petit peu comme Pascal Martin Taillou, dont on adore le travail ici en sol majeur. Et Simon Djami, il existe dans votre exposition Afrique en capitale, avec une installation intitulée Falling Houses, pardon pour l'accent. Comme souvent chez lui, est-ce que ça se compose à partir d'objets hétéroclites, divers, d'objets du quotidien ?
Oui, je préfère la notion d'objet du quotidien, même si PMT nous charrie un peu. Il utilise du cristal fabriqué à Colval-Lesa, etc. Pas forcément des objets du quotidien, sauf dans certaines maisons.
Enfin, sacré PMT. Hein.
À la maison, oui. Mais oui, c'est cette histoire du surréalisme. C'est peut-être pour ça qu'il est allé vivre en Belgique. C'est Magritte qui nous dessinait une pipe en disant « Ceci n'est pas une pipe ». Et je pense que toute la démarche de Pascal, c'est précisément de dire ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez.
Donnez-nous vos yeux alors par rapport à cette installation Falling Houses.
Falling Houses, vous le dites presque bien.
Falling Houses.
Ça a été, m'a-t-il dit, une inspiration de Chinua Achebe. Things are falling apart. Ce qui veut dire le monde s'effondre. Et cette façon de mettre les choses sans dessus dessous est à la fois une manière de nous épuiser damoclestiquement, comme aurait pu dire Boris, et de nous obliger à lever les yeux. Et d'ailleurs, en visitant l'exposition, il y a des personnes qui m'ont dit « Mais je croyais que tu avais mis un truc de Pascal ici, c'est où ?» Et je m'amusais parce que je levais le doigt vers le haut. Et c'est pour ça que ça s'intégrait assez bien dans le dispositif scénographique. C'est pour ça. C'est que les choses se découvrent progressivement. Ces maisons, quand on est en dessous, on n'en voit que les toits. Et ensuite, quand on monte là-haut sur ce que j'appelle la colline, on les voit sous une autre perspective. C'est encore une fois, les choses ne sont pas ce qu'elles sont et ne sont pas là où on pense qu'elles sont. D'aucuns y verront une métaphore plutôt pessimiste, moi je la vois plutôt optimiste.
Quelle est cette vision optimiste?
Les maisons tombent ou s'envolent, même s'ils les appellent falling houses, mais elles sont à un instant T, pour l'instant immobiles, donc on ne sait pas vraiment si elles tombent.
Je vous remercie. À votre bras, Simon Djami, on va continuer à déambuler dans votre console majeure, mais en s'arrêtant de respirer deux petites minutes avec King Arthur de Henry Purcell, que vous avez programmé. Pour quelle raison?
Parce qu'il dit à un moment, laissez-moi respirer, laissez-moi respirer. Et puis le titre, c'est l'harpe, tout. Et il y a ce cri qui revient en refrain, laissez-moi être libre, laissez-moi être libre. C'est, j'imagine, je n'étais pas avec lui quand il était en captivité, ce qu'aurait pu penser le fameux roi Arthur quand il a raté sa croisade.
Purcell, lui-même installé chez Simon Djami, commissaire de l'exposition Métropolis Afrique Capitale, c'est à Paris. On retourne à Yaoundé dans 3 minutes. l'épopée.
En sol majeur.
Dandy le jour, concepteur la nuit, ou l'inverse peut-être. Simon Djami ne dort pas, directeur artistique des rencontres de la photographie de Bamako de 2001 à 2007, co-commissaire du premier pavillon africain de la 52e édition de la Biennale de Venise en 2007, directeur des triennales de Luanda et Douala en 2010, directeur artistique de la 12e édition de Dak Art, Biennale d'art contemporain à Dakar en 2016. Simon Djami, c'est l'homme qui donc n'a pas de job. C'est ce qui est marqué sur sa carte de visite. Vous aurez compris en première partie que cet essayiste, critique d'art, n'est pas là pour se faire engueuler, ni pour voir le défilé. Iconoclaste né en Suisse et vivant de temps en temps à Paname, ce bassa pur jus est surtout un esthète pur sucre. Alors un esthète qui a de la mémoire avec l'histoire, l'histoire avec un grand H. 1958 étant une date marquée au fer rouge pour vous.
Oui, d'aucuns penseront que c'est à la constitution de la 5e République que je veux parler. En fait, je veux parler de l'assassinat de Ruben Umniobe, le leader de l'UPC, au Cameroun, dans la guerre d'indépendance du Cameroun.
Par assassinat.
Assassiné par l'État colonial, par la France, évidemment.
Il y a des trous l'armée. De mémoire, donc on essaye d'y pallier, vous voyez ce que je veux dire.
Par l'armée française, absolument.
Oui, oui. Pourquoi cette date en particulier ? Il y en a plein d'autres, malheureusement, dans l'histoire coloniale.
Mais justement, qui trop embrase, je pense, mal étreint. Et si nous avons comme ça des nausées collectives, les nausées plus précises nous aident à comprendre les nausées collectives. Et cette nausée-là a touché le peuple bassa dont je suis issu. Mon grand-père était dans le maquis. La suite de cette histoire a fait que la France a placé le type qui l'arrangeait au pouvoir et qu'aujourd'hui, le président de ce pays qui est le Cameroun est celui qui fut le premier ministre du premier type. Donc c'est en gros comme si le Cameroun avait eu un seul président, sans compter que ce cher pays a mis mon père en prison parce qu'il refusait de marcher selon leur droiture.
Qu'est-ce que vous attendriez, vous, aujourd'hui, de l'État français, par exemple, sur cette page d'histoire ?
J'attendrai qu'ils disent la vérité au peuple. Emmanuel Macron, par exemple, pendant la campagne, a noté, ensuite a reculé devant le tollé, a voulu inscrire la colonisation comme un crime contre l'humanité. Je pense qu'il faut dire les histoires. Je pense aussi que cette espèce de délitement du sentiment citoyen qu'on voit depuis quelques années, c'est une médaille à deux revers. Je n'ai pas la télévision chez moi, je n'aime pas les polluants, mais je ne suis pas certain que tous les citoyens de France trouvent leur histoire racontée dans la télévision nationale. Et donc, je ne suis pas sûr que ce sentiment, parfois, de non-reconnaissance ne naisse pas par les trous de la République. James Baldwin, écrivain noir américain, me disait un jour qu'il a découvert qu'il était noir en sortant de Harlem. Parce que Harlem, ça n'existait pas, la couleur noire. Et il m'a dit également que si on lui avait expliqué quand il était gamin que Pushkin ou Alexandre Dumas étaient des noirs, ça aurait changé sa vie. Il me disait, ça n'aurait peut-être pas mis plus de soupe dans l'assiette, mais en tout cas dans ma tête, ça m'aurait raconté que je fais partie d'une histoire qui est bien plus riche et bien plus forte que celle que l'on veut me faire porter.
Est-ce que ça veut dire aussi que ce trou de mémoire, entre guillemets, de la part de la France par rapport à cette page d'histoire coloniale altère votre lien d'appartenance, si jamais il existe, par rapport à la France et à l'identité française, Simon Djami?
Je me méfie des identités. Mon identité est parisienne, je crois. Je ne suis pas certain de me reconnaître dans tous les territoires de ce beau pays. Non, il me semble que ça renvoie plutôt à cette mode, à cette espèce d'attirance, répulsion, au fait qu'un ancien président est allé dire aux Sénégalais. Je ne comprends pas comment ils ont pu tenir ça sans le mettre sur des rails avec des plumes et du goudron et leur dire en gros que les Africains tombaient de l'arbre. Et je pense qu'il y a...
Sarkozy,
dans
pour ne pas le nommer.
Oui, je pense que tout le monde...
Appelons un chat un chat.
Appelons un chat un chat. Nicolas, le petit Nicolas Sarkozy de son nom. Mais qu'importe. Il me semble que le rapport qu'entretient la France avec ce cher continent, et notamment avec les pays qu'elle a colonisés, se niche là.
Alors, puisqu'on y est, restons-y dans l'histoire. Et je pense qu'en passant par la case Amadou Ahidjo, on devrait justement tomber sur votre maison familiale, Simon Djami.
J'ai décidé de répondre oui à votre appel, à l'appel du peuple. Oui, j'accepte l'investiture de mon parti, l'Union nationale camerounaise. Oui, j'accepte de solliciter un nouveau mandat à la magistrature suprême de mon pays. Ainsi donc, si la nation le veut et le confirme de manière légale, et si Dieu m'accorde vie et santé, je me retrouverai une fois de plus face à mon peuple, face à l'histoire.
Papa.
Et là, je pense pas au père de la nation, hein, parce qu'effectivement, entendre la voix d'Ahidjo, donc premier président de la République du Cameroun, dans votre cas, c'est forcément penser à Simon Bolivar Djami Nwandi, votre père.
Oui, absolument, et c'est penser à la haine, même si j'ai été élevé dans un endroit où la haine ne devait pas avoir de place, mais je l'avoue, non, ma famille, je l'avoue, je fais mon mea culpa, j'ai éprouvé de la haine pour ce monsieur et pour ce pays, simplement parce que ils ont mis mon père en prison.
Votre père était un homme politique, un journaliste?
Mon père n'était pas un homme politique, mon père était et toujours d'ailleurs un pasteur, un prof de théologie, un philosophe, un économiste, il ne faisait pas de politique, ça ne l'intéressait pas. En revanche, son pays et l'avenir de son pays l'intéressaient beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un jour après que, sous de nombreuses pressions, le Cameroun ait fini par le libérer, il a décidé que le combat était encore plus rude que ce qu'il croyait et qu'il a décidé de rester au Cameroun pour travailler depuis le Cameroun.
Donc il a été en tout cas prisonnier politique pendant 2 ans.
Absolument.
Environ. On comprend et on le sent encore, vous êtes fâché avec le pouvoir made in Cameroun, on peut dire ça comme ça. Mais c'est une colère étudiée, maîtrisée apparemment. Il n'y a qu'à regarder le film que vous avez commis avec le cinéaste Jean-Pierre Bécolo, l'excellent film intitulé Le Président. Et vous en avez signé le scénario, Simon Djami. Alors le pitch de ce président?
Le pitch, c'est évidemment une fiction, mais comme disait Vian, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Le pitch, c'est un président intelligent, fatigué, vieux, qui décide de se retirer du pouvoir et d'organiser une transition pacifique. En tout cas, c'est un film que nous avions écrit un peu avant des élections, en espérant que certaines personnes pourraient s'en inspirer.
Médias et amis proches, en tout cas dans votre film, donc les amis proches du président se retrouvent dans les geôles du pouvoir, hein, accessoirement. Ils s'interrogent tous sur son étonnante disparition présidentielle. Alors on va mettre un tout petit peu le curseur en sol majeur à 9 minutes 26 de votre film, lorsqu'un journaliste télé rappelle les vertus, entre guillemets, de ce président.
Personne n'a jamais, n'est-ce pas, choisi son président, encore moins celui qui vous parle. Qui dit télévision dit star. Notre président est, n'est-ce pas, une star. Il a les plus belles femmes, les plus belles voitures, tout l'argent du pays qu'il distribue à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Et il a des millions de groupies. La sécurité alors, toute l'armée, toute la police du pays ne protège que lui. Même quand il passe à la télévision, toutes les chaînes, y compris Canal D, votre chaîne, n'est-ce pas, préférée, arrêtent leur programme pour ne parler que de lui. Ici, être président, c'est vivre, n'est-ce pas, en Hollywood, inimaginable.
Le président appréciera, revu et corrigé donc par Jean-Pierre Bécolo qui filme et notre invité Simon Djami qui scénarise. Le ton est totalement décalé, la forme est totalement décalée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça se veut un film d'anticipation, voire de science-fiction?
Bon, c'est sans doute, ça procède sans doute à la science-fiction dans ce pays. La preuve, c'est que nous avons été tellement efficaces qu'il a été interdit au Cameroun et que ça n'a pas empêché M. Biya de se représenter. Mais il y a une pièce de théâtre assez méconnue de Victor Hugo qui s'appelait Le Pape. Et le pape est en son palais, et il se demande ce qui se passe à l'extérieur, et un jour, il décide de sortir pour rencontrer le peuple. Donc il se déguise, il sort et va à la rencontre du peuple. Et c'est, cette idée-là m'avait paru intéressante, parce qu'il me semble qu'ils soient des crétins ou des gens intelligents. Nous avons plutôt des crétins que des gens intelligents. Quand on est enfermé comme ça dans une sphère, on perd le contact avec la réalité du terrain, comme on dit. On l'a bien vu en France pendant les élections. Quelqu'un qui, comme ça, déciderait de se faire ce bain de foule me paraissait amusant, d'autant plus que c'est totalement improbable. Je pense que c'était l'hypothèse que quelqu'un quitte le pouvoir de lui-même.
C'était
une folie totalement absurde qu'après 35 ans, à plus de 80 ans, on puisse décider de renoncer au pouvoir.
Donc depuis, vous êtes persona non grata au Cameroun ?
Non, je crois que le Cameroun a décidé de ne plus essayer de me gratter ou de me non gratter. Après ce qui s'est passé dans ma famille, on me fiche la paix, enfin jusqu'à présent. Je pense qu'ils avaient des intentions plus radicales avec mon père, mais ils n'ont pas réussi, donc je pense pas qu'ils vont s'attaquer à moi. Et cela dit, le monde est vaste, donc le Cameroun n'est que l'un des éléments des endroits où j'ai des choses à dire, mais c'est là où sans doute je l'ai dit le plus violemment.
Est-ce qu'on s'aventurerait malgré tout en Terre Bassa avec vous, Simon Djami? Alors bon, j'ai cliqué ça, on va voir ce que ça donne.
C'est Jean Bicoco à l'aide.
Et on va voir surtout comment vous dansez. Très en sol majeur pour Simon Djami. Alors on sait désormais que vous avez les neurones très dansantes, mais est-ce que les hanches sont aussi dansantes sur la sico?
Oh, mes hanches en plastique ne bougent plus. Et puis surtout quand vous voyez des gens qui dansent ça, vous ne savez même pas, je sais pas comment ils font, s'ils ont des os ou des choses. Enfin, ils se tortillent dans tous les sens, ça part de partout. Je pense que je suis un peu trop raide pour cela.
Donc le bassa pur jus a ses limites.
Bah, toute chose a ses limites.
Est-ce que vous avez vu le film I am not your Negro, je ne suis pas votre nègre,
de mon camarade haïtien? Non, je ne l'ai pas vu.
Il va falloir réparer ça. Film réalisé par Raoul Peck, qui reprend les mots de James Baldwin, qui interpelle l'Amérique sur le racisme anti-noir.
C'est alors que j'ai vu cette photo placardée sur tous les kiosques de ce grand boulevard parisien. Les photos de Dorothy Counts, 15 ans, nous faisaient face. La foule l'injuriait et lui crachait dessus, alors qu'elle se rendait en classe, à Charlotte, en Caroline du Nord. La fierté, la tension et l'angoisse se lisaient sur le visage de cette fille, alors qu'elle approchait du temple du savoir, les sarcasmes de l'histoire dans son dos. Cela m'a rendu furieux, cela m'a rempli à la fois de haine et de pitié. Et j'ai eu honte. L'un d'entre nous aurait dû être là avec elle. C'est dans cette après-midi lumineuse que j'ai su que je quitterais la France. Je ne pouvais simplement plus traîner à Paris, à discuter du problème algérien ou de celui des Noirs américains.
Eux, comme
tous les autres payaient leurs dettes. Il était temps pour moi de rentrer chez moi et de régler la mienne.
Être ou ne pas être.
Être ou ne pas être biographe, vous aussi, hein, vous y êtes collé comme Raoul Peck dans un autre genre. Hein. Vous vous êtes penché sur le cas de James Baldwin. Pour quelle raison, Simon Djami?
Les gens un peu à part m'intriguent toujours. Et James Baldwin était un peu à part. Il est devenu porte-parole, spokesperson, sans le vouloir. Il me disait par exemple, comment veut-on que je représente tous les Noirs? C'est une chose ridicule, il y a plein de Noirs que je n'aime pas, il y a plein de Noirs qui ne m'aiment pas. À l'époque, les attaques les plus violentes qu'il a subies ne venaient pas du côté des Blancs, mais venaient du côté des Black Panthers. Qui le traitait de PD, de, etc., etc. Donc j'aime bien la complexité comme ça de, des êtres mis dans une situation donnée.
Alors vous êtes l'auteur d'une biographie intitulée James Baldwin ou Le devoir de violence? Qu'est-ce que vous appelez devoir de violence? Qu'est-ce qu'il appelait lui-même le devoir de violence?
Je ne sais pas s'il a jamais employé ce mot, mais j'emprunte un titre à Yambo Wologem, et il me semblait que Baldwin n'était pas un être violent, c'est un être virulent, etc. Mais s'il l'avait pu, il aurait vécu dans sa torture chamber, comme il disait, à écrire des livres, et donc l'histoire l'a obligé à cette violence. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est presque un oxymore, devoir de violence. C'est que il y va parce qu'il faut y aller, mais que c'était l'être le plus pacifique et le plus anti-violent du monde.
Alors, il y en a un autre hein, qui vous intéresse, un autre avec un A majuscule, c'est le fameux Sangor, l'un des pères de la négritude. Vous avez aussi travaillé autour de sa figure, mais en prenant des distances par rapport à ce concept de négritude, Simon Djami.
Ben, j'ai commencé à l'idée de la biographie de Sangor parce que longtemps j'ai détesté Sangor. Je ne comprenais pas son histoire d'émotion et de raison. L'émotion est nègre et la raison est hélène. Il me semblait être un nègre doué de raison et d'émotion. Enfin, que cette espèce de césure comme ça me paraissait étrange et curieuse. Moi, je vous parle de ma colère contre Sangor. J'avais 12, 13 ans, 14 ans. Je ne sais même pas si je l'avais lu. C'est exactement la littérature qui ne m'intéressait pas. Trop de tam-tam, trop de balafon.
C'est un auteur calebasse, Sangor, pour vous?
Bah, c'était un auteur balafon et calebasse, mais revendiqué. C'est-à-dire que l'une des choses qui marque la négritude et son style, c'est cette revendication identitaire. Et donc, quand il écrivait un poème qu'il disait pour balafon, pour calebasse, c'était l'Afrique qui s'exprimait. C'est pas un auteur calebasse au sens où nous avons créé cette expression pour tous les ringards. C'était pas un ringard, c'était un homme de son temps. Mais là encore, l'histoire, c'est le décalage historique qui m'a permis de comprendre que, ce que j'ignorais à l'époque où je le détestais, que Sangor avait écrit « Je déchirerais les rires bananiens de tous les murs de France ». Et Sangor a participé à l'émancipation de son pays. Donc, encore une fois, toujours la surface, qu'on voit ce qu'on veut bien voir, et ensuite quelque chose de plus complexe derrière.
Sur votre île déserte, j'ai été voir à quoi elle pourrait ressembler. Bah écoutez, on va pas se gêner avec un commissaire d'exposition qui échafaude des villes. Sur l'île déserte de Simon Djami, il pourrait y avoir une montagne de livres, sans doute, dont la Bible et la Divine Comédie.
Il y a l'endroit dans l'enfer de Dante, Dante qui est un bigot catholique, dans l'endroit de son enfer qui me paraît le plus attractif, l'endroit où on retrouve Aristote, etc., etc. Il y a deux personnages. Il m'a fait penser à une espèce de Sarkozy qui ferait de l'immigration choisie. Il y a deux personnages qui sont Avicenne et Averroès, qui se trouvent dans le limbe qui est le super paradis, même si le limbe est placé en enfer. Mais c'est l'endroit où les gens qui n'ont pas péché, mais qui ne croyaient pas en le Dieu qu'il fallait, ou alors qui était né, c'est aussi l'endroit où on trouve les nouveau-nés non baptisés. C'est amusant quand même, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés, donc les pauvres, ils n'ont rien fait, mais ils doivent être en enfer. Donc il y a ce salon VIP de l'enfer, où se trouve Salahadin. Et je me dis, tiens, ça c'est curieux, parce que dans le pire des cercles de l'enfer, on trouve Brutus, Barabbas, etc., et on trouve Mahomet. Or donc, voilà que dans le carré VIP, on trouve Salah ad-Din, celui qui a reconquis Jérusalem, ce grand guerrier qui était originaire d'Égypte, mais qui, lorsqu'il a repris Jérusalem, contrairement à ce que faisaient les croisés, n'a pas plongé dans la ville dans un bain de sang, a demandé aux chrétiens, ceux qui voulaient rester, resteraient, seraient sous sa protection, et ceux qui voulaient partir, partiraient, seraient escortés jusqu'au bateau. Et donc, j'imagine que c'est pour ça que Dante l'a collé là, mais sans se rendre compte du côté totalement schizophrène de son bouquin. Et donc, il m'intéressait de revisiter cette comédie-là en l'adaptant. Parce que quand vous lisez la comédie, aujourd'hui, c'est quand même un vieux bouquin. Donc, on a voulu y mettre du peps, moi, dans mon enfer. Là, j'ai mis Hitler, j'ai mis Staline, etc. Dans le purgatoire, par exemple, il y a Mussolini qui se plaint de ne pas être en enfer avec les autres parce qu'il était aussi costaud qu'eux et qui s'y retrouve avec Césaire. Donc, c'est un peu gênant. Et donc, voilà, de refaire une divine comédie au goût du jour avec au paradis du personnage que l'autre n'y aurait pas mis. Et je me souviens que quand j'avais fait l'exposition, j'avais gardé un siège à Madiba qui commençait à fatiguer, mais qui était encore vivant, donc qui ne pouvait pas être au paradis. Donc je lui avais gardé un siège parce que l'exposition s'est faite avant qu'il ne nous quitte.
Est-ce que seuls les poètes ont accès au paradis et à l'enfer? Ça, c'est une question qu'on n'ouvrira pas là tout de suite, parce que j'ai entendu le nom d'Aristote, qui est pas très loin aussi, sur votre île déserte, Simon Djami. C'est quoi le complot d'Aristote, en une phrase? Ce film que vous avez aussi commis avec Jean-Pierre Écolo.
Bah, c'est encore une fois un jeu de pataphysique. Le complot d'Aristote commence par le cinéma est inventé en Afrique 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en gros, comme Aristote a défini les règles de la comédie, il a dépouillé l'Afrique de son butin de guerre, c'est-à-dire l'invention du cinéma. Et tout au long du film, nous expliquons que ce qu'on appelle rite, parce qu'on a un regard ethnocentré, n'était que des scènes. Il y avait là des costumes, il y avait des décors, il y avait de la musique, c'est des comédies musicales avant l'heure, que l'Afrique était à la pointe, mais que, à cause des règles d'Aristote, l'Occident s'est arrogé le trophée.
C'est tout la faute à Aristote. Alors, on va se mettre en oreille cinéma, c'est l'un des personnages, et son gang, qui est en train de faire la critique du cinéma africain. Attention, c'est en anglais, vous nous traduirez après, mais ça commence, vous allez voir, un peu sur le ton moqueur, en disant « Messieurs, un grand moment d'authentique action africaine, le poulet poursuit la chèvre poursuit le poulet.
» Gentlemen, you must know about some great, genuine African action.
Action. Whoa, African action. Chickens chasing goats and goats chasing chickens.
C'est un petit peu le commentaire de ce cinéma calebasse. Celui qui parle dit, voilà, vous allez voir, mes chers camarades, un authentique film africain, un film d'action. Et c'est le poulet qui poursuit la poule, et ensuite la poule va poursuivre le poulet. Il parle. Bref, il se moque un peu d'un certain cinéma qui avait la faveur des financiers français, parce qu'il voulait que les Africains fassent du cinéma africain. Et donc, c'est pour ça que vous aviez des scènes comme ça. De 20 minutes où un type disait « Papa », et puis 10 minutes plus tard, l'autre disait « Oui, mon fils », et puis un quart d'heure plus tard, lui disait « Pourquoi veux-tu épouser ma fiancée ?» Enfin, etc. Ensuite, les gens s'étonnaient que leur cinéma ne fonctionne pas. Et donc, c'est un petit peu une critique d'une certaine forme de narration. Et c'est une réflexion sur le cinéma.
Donc vous êtes critique autant vis-à-vis du noir que du blanc?
Je suis critique, donc je suis critique.
Au fond, si l'amoureux de l'art que vous êtes devait signer son propre autoportrait, il aurait quelle forme, cet autoportrait?
Ce serait une pièce de piano. C'est tout, ensuite je ne vais pas vous dire la partition.
Ah bah écoutez, si, c'était bien commencé là.
Ce serait Monk joué par Rubinstein.
Ce qui veut dire?
Rubinstein qui jouait Chopin, c'est l'un des meilleurs chopinistes, je dirais. Et Thelonious Monk qui cognait sur son piano et qui syncopait comme personne. Donc ce serait ça, quelque chose d'assez tranquille.
Dissonant.
Forcément dissonant.
Forcément dissonant. Un joli piano dissonant, bassa mais dissonant.
Vous avez entendu la sicco, c'est dissonant.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Simon Djami, Métropolis Afrique Capitale, à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 28 mai. Le deuxième volet d'ailleurs de cette exposition se trouve à Lille jusqu'en septembre. En sol majeur avec Facebook, Twitter et derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche à 13h10 en universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain à Dakar, sur l'île de Gorée. Ça devrait vous plaire ça, Simon Djami. On sera avec le photographe Niaba Léon Ouédraogo. À demain.